Dis donc, il y a Alex qui bosse.
Oui. Il est content, on reçoit Pierre Lescure.
Ah, oui. Évidemment, il va lui parler des femmes.
Même pas.
C'est bien de me rabaisser à ça. Moi, je suis un super cinéphile.
Ah, oui, pardon.
Mais comme Pierre Lescure, c'est le président du Festival de Cannes.
Ah, bah, il veut l'impressionner, c'est ça.
C'est ça.
Pas du tout, je survole par intérêt la sélection officielle.
Il y a des trucs intéressants.
Oh, moi, j'ai envie de tout voir.
Il
y a notamment Ned Yubov d'Andrei Jiazintsev. J'avoue, j'ai pas tout suivi son œuvre, lui, quand même.
C'est long.
Pas du tout, c'est un petit film, 2h08.
Ça va.
Génial. Et il y a quoi d'autre?
Alors, il y a The Killing of a Sacred Deer de Yorgos Lanthimos.
Ah, bah, bien sûr.
Ça, le cinéma portugais.
Mon fameux, il est grec.
Ah, oui, bah, ça reste du cinéma méditerranéen.
Mais bien sûr, à ce rythme-là, camping, c'est du cinéma méditerranéen.
Pardon, ça va.
Ça va, on ira voir ton Killing Blim Machine.
The Killing of a Sacred Deer. La mise à mort du cerf sacré.
Oui,
bien sûr. Mais il y a des gens qu'on connaît dans la sélection, quand même.
Bien sûr, les stars comme Fatih Akin.
Bien sûr. Et vas-y, donne-moi cette liste. Voilà, tu fais ton intello, mais il y a Haneke, Sofia Coppola, Michel Hazanavicius.
Mais ça, c'est pour le glamour.
Eh ben, évidemment, monsieur préfère le cinéma bulgare d'avant-guerre.
Mais pas du tout, mais j'attends par exemple beaucoup de Okja, de Bong Joon-ho.
J'ai une question quand même. Bong Joon-ho, c'est quoi son prénom? Ah, bah voilà.
Ah, bah voilà, t'y connais rien en cinéma asiatique.
Mais bien sûr,
dans le cinéma asiatique, Imamura, Mizoguchi,
Kurosawa. Mais t'es même pas capable de dire si son prénom c'est Bong Joon-ho.
Ou Joon-ho, peut-être. Peut-être c'est Jean-Pierre en coréen.
En tout cas, et merci Alex pour ta sélection.
On prépare l'émission avec Pierre Lescure.
Enfin, et s'il faut parler de femmes, je veux bien aussi.
D'accord. Et Gong Li, par exemple, c'est quoi son prénom à Gong Li?
Gong ou Li.
Non. Peut-être que Gong Li, c'est Marie-Thérèse en chinois.
Ah, peut-être.
Ah oui.
Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui ouvre les vannes de l'actualité. Et voici les trois informations qui vont inonder l'antenne jusqu'à 18h. Les lycéens sont descendus dans la rue et beaucoup revendiquent de ne pas choisir entre les deux candidats. Mais à 16 ans, aujourd'hui, ils ont grandi dans un pays où le Front National, c'est normal. Et pourtant, s'abstenir...
C'est quand même une lourde décision, le retrait des troupes.
Les 100 jours de Donald Trump, nous y sommes demain. Le bilan du démarrage, ça donne quoi?
C'est vrai que Trump, il a l'air comme ça un peu bourru, mais en vrai, je suis sûr, c'est un bon gars.
Audrey Pulvar est journaliste, elle a été suspendue de l'antenne de CNews pour avoir signé une pétition féministe et anti-FN. La direction a tranché.
Qu'est-ce qu'on fait? On la dégage ou pas? Moi, je pense qu'il faut la dégager.
Pour m'accompagner, j'ai à mes côtés celui qui est candidat à la déconne, c'est Alex Vizorek.
Mais oui, candidat permanent d'ailleurs. Bonjour Charline Bonnenacker, et pour terminer la semaine, une belle équipe. À 17h20, celui qui, s'il était une palme d'or à Cannes, serait le monde du silence de Cousteau et Mal. Déjà en hommage à son costume, et souvent parce que quand il parle, on aimerait se projeter dans le monde du silence. Bonjour Thomas Croisière.
Très bien. C'est impressionnant.
De quoi allez-vous nous parler?
Eh bien, écoutez, j'ai profité de la présence de Pierre Lescure parce que j'ai dû vendre mes services pour ces cérémonies d'ouverture et de clôture. Parce que Monica Bellucci, c'est chic, c'est glamour, c'est Cannes, mais ça va manquer de rigolade.
Très bien. À mon avis, il est preneur. 17h30, celui qui, s'il était une palme d'or à Cannes, serait le salaire de la peur de Clouseau. Car on le paie et en même temps, on a un peu peur de ce qu'il va nous rapporter. C'est vous, Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors, chronique un peu particulière aujourd'hui, je suis accompagné de Marion Letoïc, qui est traductrice en langue des signes et elle va traduire ma chronique en direct. On va notamment apprendre à traduire des discours politiques, par exemple
Roger.
Promis, je ne crierai pas. Et à 17h40, celle qui, si elle était une palme d'or à Cannes, serait le messager de Joseph Losey, car oui, elle nous porte des messages à chaque fois qu'elle vient s'adresser à nous. C'est vous, Isabelle Sorrente.
Bonjour Alex, bonjour Charline, j'adore ce film de Losey qui est d'ailleurs très triste, mais bon, je vais vous parler de sucre aujourd'hui.
Très bien. Voilà. N'en mangez pas trop souvent, vous le vois.
Et puis?
Et Frédéric Froissart.
Peur aussi.
Mais il a toutes les pattes, Victor de la musique, 17h55.
À un moment, j'ai pensé qu'il était censuré, j'ai eu peur.
À un moment, vous avez cru que j'avais oublié mon lancement et vous n'aviez pas tort.
Et voici celui qui va présider notre assemblée. Vous démarrez sur RMC et vous entrez à la télévision en 72 pour présenter le journal. En 80, vous créez Les Enfants du Rock sur Antenne 2 et en 94, vous devenez PDG de Canal+. 20 ans plus tard, vous présidez le Festival de Cannes. On vous a reconnu, mais enfin, dites-nous quand même qui vous êtes. Vous êtes
Pierre Lescure.
Mais oui, mais évidemment, c'est lui.
Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout.
Pierre Lescure, le boss, il a tout fait, il a tout vu. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du 70e Festival de Cannes qui se déroulera du 17 au 28 mai. Pierre Lescure, en dehors de l'ouverture et de la clôture, bien sûr, quels sont les temps forts
qu'on... Bah, c'est le jambon entre les deux tranches de l'ouverture et de la clôture, avec quelques cornichons dont Alex a donné un certain nombre de, d'exemples. Non, les temps forts, ce sera aussi le mardi 23. Mmh. 23 mai, ce sera la soirée du 70e anniversaire qui devra être un peu comme une cavalcade de desserts, une farandole de desserts pour symboliser tout ce qui s'est passé depuis les scandales, les sourires, les émotions, le messager, tout au long des 70 éditions du Festival de Cannes.
Et donc des légendes du cinéma seront présentes.
Ah, il y en aura un paquet. C'est le moins qu'on puisse dire.
En plus d'Alain Delon, j'imagine.
Je suis pas sûr qu'il y a Alain, mais il y aura tous les autres et toutes les autres. C'est vrai qu'il y aura, il n'y a jamais eu autant de femmes et d'hommes du cinéma, réalisateurs, comédiennes, comédiens et plein d'autres talents, qui ont dit oui alors qu'ils n'ont pas de film cette année, mais ils viennent pour faire la fête du 70e anniversaire.
Est-ce qu'il y aura Franck de la Personne?
Je ne crois pas, car il sera pris par les législatives. Je ne sais pas où il se présente.
Le ministre de la Culture, c'est pour ça que je pose la question.
Ah bah oui, il devra monter les marches.
Vous avez vu, ça ne m'a même pas effleuré.
Non, je testais quand même.
Non, parce qu'on y croit jusqu'au bout qu'il n'ira pas, c'est sûr. Pierre Lescure, vous êtes un homme de médias, vous êtes passé par de très nombreux médias, et maintenant vous présidez le festival. Le traitement médiatique du Festival de Cannes, il a beaucoup évolué, il s'est accéléré aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'impulsions, de réactions en direct, de blogs, de choses comme ça. Vous qui êtes l'homme de médias et à la fois le président du Festival de Cannes, il y a des choses que vous arrivez à essayer d'anticiper, de maîtriser ou de pallier parce que vous connaissez, vous avez un pied dans chaque, vous connaissez les deux.
Oui, c'est vrai que les réseaux et sociaux ont accéléré cette instantanéité de la réaction. Il y a des fois, ça gonfle vraiment de voir qu'au sortir d'une projection de presse, il y a déjà eu je ne sais combien de tweets qui résument en moins de 140 signes l'opinion d'un critique. En même temps, est-ce que c'est plus fort, est-ce que c'est plus assassin que ce qu'avait écrit un jour un journaliste de Libé qui avait titré à propos d'un film italien « Chronique d'une merde annoncée ». Le film s'appelait « Chronique d'une mort annoncée ». C'était terrible de résumer en quelques mots, alors que le papier était plus nuancé, l'œuvre de ce cinéaste italien. On peut pas maîtriser. C'est le rôle de la critique.
C'est Cannes.
On attend ça. On attend des polémiques. Ce qui est bien, c'est d'être en désaccord. C'est comme le masque et la plume, quoi. Mm-hmm. Et ben aujourd'hui, c'est le masque et la plume universel où chacun, y compris ceux qui ne sont allés au cinéma qu'une fois dans l'année, peuvent donner leur avis.
C'est vrai. Pierre Lescure, Canal+ avait un peu déserté la Croisette l'année dernière, c'était moins investi. Il semblerait qu'ils reviennent en force cette année. Vous y êtes un peu pour quelque chose ou pas ?
En tout cas, je pense que le fait qu'on avait un contrat de 3 ans qui se renouvelait depuis, je crois, le premier que j'avais signé il y a un paquet d'années, quand j'étais encore à Canal, le fait que ce contrat arrive près de son échéance fait que je crois qu'ils ont mis les petits plats dans les grands.
Ah d'accord, on saura tout. Et puis comme tous les 5 ans, la politique va venir un peu percuter le Festival de Cannes ou pas ? Tout ce qui est passation de pouvoir, etc. Est-ce que vous avez un peu songé à ça ?
Évidemment, on a essayé, comme vous ce matin dans vos bureaux, d'imaginer ce que serait l'émission. Il y a quand même un truc particulier, c'est qu'il est à peu près certain que quel que soit le résultat du deuxième tour, nous on arrive 10 jours après, il y aura une incertitude sur ce que sera le Parlement et que ça va diablement influer sur les premières années du quinquennat. Donc, je pense que à la fois le festival va ouvrir après cette longue.
Ça va faire du bien. Hein.
Ça va faire du bien, et en même temps, on pourra pas s'empêcher de penser que il y en a encore pour un paquet de 7 à 8 semaines avant de savoir comment ça va se passer.
Si le festival se situait maintenant, est-ce qu'on aurait droit à ce qu'avait été le festival dans les grandes années Truffaut-Godard, à des prises de position, à des prises de position politiques même?
Oui, je suis pas sûr qu'il y aurait sûrement des prises de position et des déclarations, comme on en voit quelquefois dans les remises de décoration, lorsque il n'y a pas que les intermittents, il y a tout l'ensemble de la société qui s'exprime à travers la bouche des comédiennes, des comédiens ou des réalisateurs. Ce qui pourrait se passer, la question qu'on s'est posée avec Thierry Frémaux, le délégué général, c'est que si le Front National devait gagner, il y aura forcément des réalisateurs qui vont dire désobéissance civile. Mmh. Et la question se poserait à tous. voilà, ça, là, ce serait, ça nous rapprocherait de 68.
Et la révolution commencerait à Cannes, dites donc. Le festival, c'est le 70e festival de Cannes qui s'ouvre donc le 17 mai. Le film d'ouverture, Les fantômes d'Ismaël, d'Arnaud Desplechin, et donc notre ami Hippolyte Girardot.
Dites donc,
il se prépare. Les marches, on l'embrasse, il nous écoute. Pierre Lescure est avec nous jusqu'à 18h. Wouh, cool. Alors on est cool. On écoute Devo, Satisfaction. Et puis toute l'écoute, on est chaud bouillant pour vous questionner, Pierre.
Back.
Allez, c'est parti. Sur France Inter, il est 17h20, nous sommes avec Pierre Lescure, et pour entourer le président du Festival de Cannes...
Eh bien Thomas Croisière, qui se prépare à parler cinéma, ça tombe bien. Guillaume Meurice, qui n'est pas venu seul, est venu en couple avec Marion Letoïc, qui fera les gestes de votre chronique, donc elle peut vous gifler dès qu'il y a quelque chose.
Elle traduit en langue des signes. Préparez-vous à aller sur franceinter.fr pour nous voir en vidéo.
Absolument, et Isabelle Sorrent est là.
Et l'information.
Ah oui, un peu, mon Dieu. Je ne céderai pas. Je ne me rendrai pas.
Le journal de presque 17h17.
J'irai jusqu'au bout.
Et on commence par les titres.
Le Front National remplace déjà son nouveau président, Jean-François Jalque, accusé de négationnisme. Et il est remplacé par Steve Briouat.
Est-ce que c'est pas celui qui a été envoyé en correctionnel pour incitation à la haine?
Si, si.
Ah, voilà. Au FN, la dédiabolisation est progressive. C'est étape par étape.
Dans Envoyé spécial, oui. François Ruffin a annoncé qu'il votera pour Emmanuel Macron au second tour, mais qu'il restera un opposant ferme.
Oui, il prépare son prochain film Merci Macron. Et bien sûr, Charline, il y aura des brèves.
Pas ça.
Si.
Emmanuel Macron est en déplacement au village martyr et au centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane aujourd'hui.
Oui, si c'est pour éviter que Marine Le Pen fasse à nouveau une visite surprise au même endroit que lui, c'est assez bien joué.
Notez que si vraiment il veut être certain qu'elle ne vienne pas, il devrait aller visiter un commissariat de police.
Oui, effectivement. Interrogé sur le fait que le FN aurait distribué des sifflets aux ouvriers pour la venue d'Emmanuel Macron, Gilbert Collard, le poète du Front National, comme on l'appelle, a déclaré «
Les ouvriers ne sont pas des putes comme les banquiers ».
Voilà, sauf
que les banquiers non plus ne sont pas des putes. Les banquiers, eux, tu les payes pour qu'ils te baisent. C'est assez différent.
François Ruffin dit qu'il voterait Macron au second tour. Il a notamment expliqué que voter au second tour, c'est un peu comme vous allez au WC, vous aimez bien fermer la porte.
Voilà, le danger du second tour, c'est non pas l'abstention, mais la constipation.
Et de son côté, Benoît Hamon a envoyé une lettre à ses électeurs les appelant à voter Emmanuel Macron.
On va pas se mentir, ça l'a pas ruiné en timbre.
À l'inverse, invité sur LCI, oui. Marion Maréchal Le Pen a déclaré « La perspective qu'Emmanuel Macron parvienne au pouvoir me rend malade. »
Ah, ben voilà, ça c'est un bon argument pour décider ceux qui sont tentés par l'abstention. Ça, c'est intéressant.
Et vu de l'extérieur, à présent...
Oui, de la Belgique flamande. Charline en a beaucoup parlé de l'élection présidentielle, notamment sur Radio N.
La radio publique équivalente de France Inter.
Et ils ont eu l'excellente idée d'interviewer le rédacteur en chef de Woof Magazine, d'un magazine canin, pour savoir à quel chien les deux candidats le faisaient penser.
Et si l'intervieweur, lui, est au second degré, le monsieur de Woof Magazine, pas du tout, hein.
Voor Marine Le Pen zou ik in elk geval kiezen voor de Pekinese.
Pour Marine Le Pen, je choisis sans hésiter un Pékinois. Un museau plat, fait beaucoup de bruit, mais quand il lui arrive quelque chose, c'est la queue entre les jambes qu'il fuit.
En schampavrie. Macron, die zou ik vergelijken met een flat-coated retriever.
Macron, ce serait plutôt un retriever à poil plat. Un chien classe et élégant, avec une énorme envie de plaire, qui fait tout ce que son maître lui demande ou ce qu'il pense qu'on lui demande. Ça, c'est
Macron.
Voilà, du journalisme d'investigation de première main.
Et encore en France, les chiffres du chômage en mars sont tombés. Ils ne sont pas bons. 43 700 demandeurs d'emploi de plus.
Hollande, démission.
Ouais, non, ça n'a plus d'intérêt.
Non, c'est fini, c'est dommage. International, aux États-Unis, l'Arkansas a procédé à une série de 4 exécutions de détenus en 8 jours parce que l'un des produits utilisés dans les injections létales allait être périmé bientôt.
Mais oui, hein, c'est vrai qu'un produit périmé, ça peut être très très dangereux pour la santé. Donc c'est bon de le faire avant.
Bande dessinée et cinéma.
Oui, le tournage de Gaston Lagaffe a commencé à Marseille.
Et on a appris que dans cette version ciné, Gaston Lagaffe ne bosse plus au journal de Spirou, mais dans une start-up.
Voilà, la macronisation de la France est déjà en marche.
Culture toujours. Ouais. Elton John a été hospitalisé en urgence après une infection bactérienne potentiellement mortelle.
Oui, et la question c'est si il y arrivait malheureusement quelque chose à Elton John, qui va jouer au piano à son enterrement? Là, il faut absolument qu'on trouve quelqu'un.
Terminons par des brèves.
Oui, dans l'Isère, 400 paires de lunettes de soleil ont été dérobées. Alors on a la réponse à la question, mais que devient Gilbert Montagnier?
La dernière?
Grenoble, explosion dans les toilettes d'un McDonald's. Alors que notamment c'est après avoir mangé un McDonald's qu'on explose les toilettes, évidemment.
Bien sûr.
Petite blague scatologique pour Pierre
Lescure. Vous êtes sur Europe 1. Il est 17h24.
Présenter la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes.
Pierre Lescure est avec nous. Le Festival de Cannes, l'ouverture, c'est le 17 mai. Et les 70 ans, la grosse fête, le 23 mai,
le 23.
Si j'ai bien compris. On va aborder ce premier sujet avec vous. Quelques milliers de lycéens sont descendus dans la rue hier. Même à Louis-le-Grand, dites donc, on s'en canaille. Hein, un ras-le-bol avant même la majorité pour aller voter. Écoutez, tant mieux, sauf que revendiquer l'abstention avant même d'avoir voté, c'est là qu'on se dit que 95, c'était il y a un siècle, c'était il y a une éternité. Vive Joe Dassin. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer, le Front National. La jeunesse en mer. La jeunesse en mer, tous les nager. Jeunesse française, jeunesse immigrée, solidarité. Ouais, le Pégérier Noir, Porcherie, 1989, je sais, on vous l'a déjà diffusé. Et je vais vous dire, c'est pas la dernière fois. S'il faut le mettre tous les jours, on le mettra tous les jours. Pierre Lescure, c'était au siècle dernier, 89, Porcherie, les Berruriers Noirs, tout comme 95, c'était au siècle dernier. Ces jeunes qui sont descendus dans la rue, qui n'arrivent pas à trancher, qui revendiquent une forme d'abstention déjà même avant d'aller voter, est-ce que c'est parce qu'ils ont grandi avec la dédiabolisation du FN? Ils ont grandi avec un Front National où c'était presque normal en France? C'est un peu ce résultat-là ou vous avez une autre lecture?
J'ai d'abord votre lecture, c'est sûr, et je vais faire extrêmement vieux con. Mais je crois que plus on s'approche, mais je suis assez vieux, con, vous en jugerez, mais c'est que mine de rien, plus on avance, plus on s'écarte des années terribles de la guerre, qui ont fait que les jeunes, comme moi, ont grandi dans cette résonance-là. Je suis né juste après la guerre. Mmh. Et donc, par exemple, quand on me parlait d'Europe, en 57, j'étais déjà à l'école, j'étais au lycée, et tous les jours, on nous parlait, toutes les semaines, il y avait des cours sur l'Europe, et on ne nous parlait pas de l'euro, évidemment pas encore, on ne nous parlait pas de Bruxelles et des technocrates, on nous disait, c'est l'assurance qu'enfin ce soit la paix en Europe. Et donc, j'ai grandi avec ça, c'est dans mon inconscient. Je dis pas que ça va être la guerre si on vote pas bien, mais s'abstenir est un truc qui ne m'habite pas. Je me suis engueulé 10 fois avec Gassiot qui me bassinait avec le vote blanc. Quand on a un bulletin de vote, en 69 j'ai mon premier bulletin de vote, c'est bien avant 89. Et donc j'ai mon premier bulletin de vote et au deuxième tour il y a le président du Sénat qui s'appelle Alain Poher, qui a l'air d'un vieux démocrate chrétien très triste et très vieux. Et puis il y a Georges Pompidou, qui vient lui aussi de chez Rothschild, qui a négocié en 68 les accords de Grenelle, et qui me semble un type cultivé, intéressant. Et mes parents étaient communistes, moi j'étais de gauche, comme hier et avant-hier et aujourd'hui. Et j'ai voté Pompidou, parce que je n'imaginais pas que pour la première fois que j'avais un bulletin de vote, j'allais rester chez moi.
Eh ben vous faites pas du tout vieux con. Alors nous, on est jeunes cons, parce qu'en parlant de ce sujet, on s'est dit, tiens, on a des grands-parents, et certains ont encore la chance de les avoir, et quand on va manger déjeuner avec eux le dimanche, ils nous racontent tout ça. Et cette nouvelle génération...
Vous êtes votre grand-père, Charline ?
Non, je pense que vous êtes encore trop jeune. Mais c'est vrai. Et donc,
on dirait Jean-Luc Lahaye.
et puis ces jeunes lycéens qui disent ni facho ni banquier, est-ce qu'aussi ils n'arrivent plus à trancher, à prendre une décision ?
Ah oui, j'ai vu cet extrait de déclaration de jeunes, que j'aime comme tous les jeunes, comme ma fille, etc. Mais quand je vois ni banquier ni raciste, enfin, comment tu peux mettre les deux mots ? Tu devrais être envoyé de l'école immédiatement.
Non, mais c'est ça, il faut peut-être aussi quand même, au-delà de dire non, c'est bête ce que tu penses, se poser la question de mais pourquoi ils en viennent à penser ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour assimiler cette pensée et essayer de...
Ben on va avoir 5 ans pour y réfléchir, non ?
Non, mais ce qui est certain, c'est que y a une haine du libéralisme, non pas de la mondialisation, mais de du manque de respect pour tous ceux qui travaillent, de tous ceux qui voudraient travailler, qui est tellement radical, venant des banquiers, de l'administration, des politiques, etc., qu'il y a un moment où t'as une réaction, surtout quand t'es jeune, et que t'as de la vie devant toi, tu te dis, je veux pas me laisser attraper dans cet étau.
Et pour clore ce sujet, j'ai retrouvé un slogan qui date d'avant 95, qui date des années 80, dans les manifs. Le Pen, mon amour s'envole vers toi comme un pavé dans ta gueule. C'était tellement beau. Je me suis dit, tiens, pour inaugurer la chronique de Thomas Croisière, je sais pas, je me suis dit, tiens.
Ce sera un pavé dans votre gueule. Oh là. Bonjour Pierre Lescure.
Salut.
J'imagine que vous me connaissez, Thomas Croisière, organisateur de soirées privées. Vous savez, communion, bar mitzvah, mariage, festival de Cannes, embarqué pour un océan de rire avec Thomas Croisière. Réservation 01 45 24 20 20. Je préfère vous le dire tout de suite, je n'ai pas vu votre film Le Festival de Cannes.
Oula, attends, c'est pas un film, c'est des dizaines de films. C'est...
Comment ça? On peut faire des dizaines de films de Cannes? Enfin, déjà que Babe 2, l'histoire du cochon chien de berger, n'apportait rien à Babe 1, comment peut-on faire plusieurs films de Cannes?
Vous voulez en venir où, Thomas?
Non, parce qu'à part, salut, t'habites dans le coin, tu veux de la gelée de coin, t'as podcasté l'oreille en coin. Je ne vois pas bien ce qu'on peut raconter avec de Cannes pendant 2 heures.
Cannes, Thomas, la ville de Cannes, pas l'animal.
Pourquoi ça ne s'appelle pas le festival à Cannes ?
Mais parce que c'est le festival de Cannes à Cannes ! Faut être débile, non ? Pour pas comprendre ça.
Bah vous voyez, Alex, ce que vous venez de faire résume parfaitement l'esprit du film dont je voulais vous parler aujourd'hui. Get Out, dont l'accroche est « Ce n'est pas parce que vous êtes invité que vous êtes le bienvenu ». Et c'est pile poil ce que je ressens. Get Out, qui malgré son titre sort la semaine prochaine, et non pas...
En août, c'est...
S'il vous plaît, monsieur Vizorek. Ce n'est pas parce que vous êtes belge que vous avez le monopole de l'humour. Vous ne l'avez pas. Je vous rappelle que nous sommes sur France Inter et que je me dois de défendre un humour français, de qualité. Alors oui, je ferai des calembours, et oui, je contrepèterai tant que rien ne me brouillera l'écoute. Get Out raconte l'histoire de Chris qui rencontre pour la première fois les parents de sa petite amie. Il est aussi noir qu'elle est blanche et même si ses parents font tout pour expliquer que ce n'est pas un problème, pour preuve, ils auraient voté Obama s'il s'était présenté une troisième fois et ils adorent Tiger Woods, un malaise puis une véritable tension s'installe. Le film est écrit et réalisé par Jordan Peele, du duo comique Key & Peele. Avec maîtrise, il utilise son sens du timing et sa culture du film de genre pour nous scotcher au siège pendant 1h40. Quel talent pour un noir. Attention, je ne suis pas raciste. Hein. Dimanche soir, à Hénin Beaumont, j'ai dansé sur du Michael Jackson donc, et sa période Off the Wall, quand il était plus ebony que ivory, hein, comme chantait Stevie Wonder, qui ne sait toujours pas qu'il est noir. Attention, je ne me moque pas des handicapés. J'ai un énorme sexe et c'est très handicapant. Au casting, Daniel Kaluuya est remarquable, tout comme Alison Williams, que l'on avait aimé dans Girls et qui joue très bien, même si c'est une fille. Attention, je ne suis pas misogyne, ma mère est une femme. Le film est produit par Jason Blum, qui est en train de révolutionner Hollywood avec des films à petit budget très efficaces. C'est à lui que l'on doit la série des Paranormal Activity et dernièrement Split de Shyamalan, un film qui laissera une plus grande trace dans l'histoire que son remake français Sleep de Shyamalan. Oui, vous constatez que comme vous, Pierre Lescure, qui avait été Canal, Universal et Festival, je n'ai pas quitté le stade en halle. Si vous aimez Rosemary's Baby, le chef-d'œuvre de Polanski, vous aimerez Get Out. Vous l'aimerez aussi si vous ne connaissez pas Rosemary's Baby et que vous êtes un putain de millennials incultes. Attention, je n'ai rien contre les jeunes, je regarde YouTube. Le film vous fera une peur bleue. Je n'ai rien contre les bleus. Je les ai soutenus le mois dernier alors qu'ils ont pris deux pions contre les espingouins. Attention, je n'ai rien contre les espagnols. Je mange souvent de la paella. Bref, j'espère, Pierre, que si des membres de l'équipe passent par Cannes, vous leur déroulerez le tapis rouge. Et je n'ai rien contre les peaux rouges. J'ai un ami qui s'appelle Hugues. Alors, sortez pour voir Get Out, ou comme on dit en bon américain, Pierre...
Get out to see Get Out.
Thank you, Peter. Ah oui, dernière bonne nouvelle, il n'y a pas de rouquin dans le film. Et c'est tant mieux, car étant blond vénitien, je les hais. Vous êtes d'accord avec moi, Alex?
Bien évidemment.
Thomas Croisière sur France Inter, merci. Pierre Lescure est avec nous jusqu'à 18h. Le Festival de Cannes ouvre le 17 mai.
C'est comme si c'était hier, comme si l'endroit faisait l'envers, comme si les images s'arrêtaient et que les belles heures défilaient. C'est comme si c'était demain, comme si le soir venait le matin, comme si la grande roue tournait et que l'horloge s'enrayait. C'est comme si c'était le moment, comme si l'après pointait l'avant, comme si qui sera été, et que la mécanique s'essoufflait. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. C'est comme si c'était fini, comme si la mémoire servait l'oubli, comme si nos rêves souvenaient pas et que le réveil ne sonnait pas. C'est comme si c'était toujours, comme si nos nuits étaient nos jours, comme si le soleil vous détoie, ne brillait pas. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite. Le temps passe, on l'évite, ne passons pas trop vite.
Gaëtan Roussel, Rachida Brakni, c'est Lady Sœur. Le temps passe sur France Inter. Il passe trop vite avec vous, chers auditeurs. Et Pierre Lescure est avec nous, le président du 70e Festival de Cannes.
J'étais déjà là au 69e.
C'est vrai. C'est depuis 2014 que vous y êtes, c'est ça. J'ai un petit peu bossé avant. Comme Guillaume Meurice aussi, vous avez bossé. Vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Je donne rendez-vous sur franceinter.fr pour voir la vidéo, car il y a du visuel aujourd'hui.
Car c'est une chronique en duo, puisque je vous présente Marion Letoïc. Alors, elle n'est pas en train de faire un AVC, hein. Attention, non, elle va traduire ma chronique en langue des signes pour la vidéo, parce que parmi tous les oubliés des politiques publiques depuis des années, il y a les personnes dites en situation de handicap. Alors, à noter quand même que la connerie n'est pas considérée comme un handicap en France, hein. Je rappelle que Laurent Wauquiez, par exemple, n'a pas sa carte d'invalidité. Et regardez, le premier problème pour Marion, comment traduire Laurent Wauquiez en langage des signes, en langue des signes? Alors, comme là, elle est occupée à traduire mon texte, je lui ai posé la question ce matin.
Alors, on n'en a pas. On n'a pas de signe pour lui. Alors, on
va le pauvre.
Ouais, le pauvre.
Il va être vexé qu'il n'y ait pas son nom, le pauvre.
C'est possible.
Est-ce que nous, on ne pourrait pas là, trouver un signe pour Laurent Wauquiez?
On pourrait, il faudrait lui trouver un trait saillant, une caractéristique physique.
Ouais, alors caractéristique physique de Laurent Wauquiez, c'est une espèce de grand dégingandé avec des cheveux poivre et sel. Ouais, du coup, il y a quand même un gros risque qu'on confonde avec moi. On va le, ouais, voilà, on va le laisser tranquille, Lolo. Sans traduction, c'est bien aussi. Mais comment traduit-on en langue des signes une personnalité? Je trouve que ça en dit long sur eux. Par exemple, quel est le signe de Marine Le Pen?
Elle en a trois. Elle a la mèche de cheveux qui rebique un peu comme ça. Elle a aussi le signe celui-là, qui est la fille de Le Pen, fille du Borgne, voilà.
C'est... On peut pas confondre avec Albator.
Il y a des risques, mais en période électorale, on est bon. Et puis sinon, il y a celui-là qui reprend la forme de ses deux canines et son air un peu bulldog, peut-être.
Ah, ouais, alors attention, parce qu'on a eu le Pékinois tout à l'heure. Oui. Attention, parce qu'on risque d'avoir des ennuis en comparant quand même publiquement Marine Le Pen à un chien. Notamment des ennuis auprès des chiens. Hein. Donc, non, mais voilà, que les choses soient claires, on n'est pas en train de dire que les canidés ont détourné 5 millions d'euros au Parlement européen. D'accord ? Il faut préciser, parce que la période est très tendue en ce moment. Et puisqu'on parle de pognon, parlons évidemment François Fillon. Allez. Comment on dit Fillon ?
Pour Fillon, il y a deux signes. On peut reprendre soit le sourcil, simplement, de manière très neutre, soit on peut reprendre le sourcil et à rajouter juste derrière un petit côté d'argent. Voilà.
Un sourcil à argent, c'est Fillon.
Voilà.
Pas mal ! Pas mal, pas mal. Donc, je vous conseille de revisionner les traductions en langue des signes des meetings de Fillon. Selon comment le traducteur dit son nom, vous saurez si c'était un opposant ou pas. D'ailleurs, est-ce que Marion a déjà fait de la traduction de meeting en direct?
Oui, plusieurs.
Lesquels, alors?
Du PS, plusieurs fois. Celui de Poutou.
Ah ouais?
Oui, absolument, ouais, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il a dit de difficile à traduire en langage des signes?
Poutou, il n'a pas de point, pas de virgule, donc il speed. La difficulté, elle est dans le rythme.
Ah oui, il faut tenir le coup.
Ouais. Ah, faut tenir le coup. Ouais. Et c'est difficile. On est plusieurs interprètes. On se passe le relais toutes les 15 minutes.
Tu m'étonnes. Oh là parce là. Que quand Filou, il est lancé, il en épuise des traductrices et des traducteurs. Hein, on a plusieurs cas de claquage et de tendinite, notamment. Alors après, faut relativiser. C'est quand même plus facile que de traduire un discours de Jean Lassalle. Hein, là, c'est carrément des risques de dépression nerveuse. Parce que comment on dit? Bon, mais je crois que. Regardez comme elle est en train de galérer, la Marion. Hein, c'est pas facile quand on pige rien. Alors, puisqu'on parle de rien piger, comment on traduit un discours de Macron? Comment faire quand, à la fin, par exemple, il nous fait une descente d'organes en gueulant projet?
Alors, il faut de l'implication du corps, là, hein, comme dans la voix. C'est-à-dire, on va reprendre le signe de projet qui consiste à avancer quatre doigts vers l'extérieur, vers le futur.
D'accord.
Ouais, dans ces cas-là, on l'appuie fort et on le maintient jusqu'au plus loin qu'on peut.
Jusqu'au bout. Voilà. Vraiment, le bras tendu. Avec
le bras tendu et avec un air absolument convaincu, engagé, incarné. Ça confère parfois un air un peu ridicule, mais c'est pas grave.
C'est pas grave.
Non, c'est pas vrai.
C'est pas grave et c'est pas aussi ridicule que Manu, hein, et sa veine du cou qui gonfle quand il se prend pour Leonardo DiCaprio dans Titanic. Ah, regardez, Marion vient de traduire Titanic. Titanic, vous pouvez le refaire, Marion. Voilà, on dirait le sigle du PS, vous l'avez remarqué. On dirait le Parti Socialiste, c'est rigolo.
Parce qu'elle fait, comme si elle plongeait.
Voilà, ça coule.
Voilà, parce que si nos auditeurs lâchent le truc, moi je suis là aussi pour traduire le langage des signes en version radio.
C'est beau la technologie. Alors, puisqu'on parle de Macron, donc revenons-en à Macron. Comment traduire un discours creux et vide?
On pourrait brasser un peu d'air comme ça. Il y a ce signe-là qui va souvent revenir. On est là, bon, comme s'il y avait de la nuance qui flottait dans l'air, mais en même temps, rien n'arrive derrière.
Ouais, c'est vrai que moi, la dernière fois que j'ai croisé une éolienne, par exemple, j'ai d'abord cru que c'était une traduction d'un meeting de Macron. Mais bon, est-ce qu'il vaut mieux une éolienne ou un Panzer? C'est vraiment la question du moment. C'est marrant, regardez, quand Marion a traduit Panzer, c'est le même signe que pour Robert Ménard. C'est fou, ça, quand même. Hein. Bon, allez, concluons avec Marion, avec le problème, forcément, du discours politique depuis des dizaines d'années.
On essaye de trouver le sens, À la limite, le boulot, il est des fois, parfois, c'est là que c'est le plus dur.
Parce que ça, c'est compliqué, ouais.
Voilà, sans sens, on est un peu coincé. Bah, nous aussi, on brasse un peu du vent, quoi. C'est-à-dire, les signes s'enchaînent sans faire tout à fait de sens, à défaut d'en avoir, quoi.
Et ouais, ouais, pas facile. Alors, bah, bravo et merci à Marion. Bise à tous ceux qui nous écoutent sans nous entendre. Contrairement à la classe politique qui fait trop semblant souvent de nous entendre sans nous écouter.
Merci Guillaume Meurice et Marion Le Toïc qui est dans ce studio. Et vous pouvez revoir la vidéo bien sûr sur franceinter.fr et sur notre page Facebook. C'est beau la modernité. Pierre Lescure est avec nous, on en profite, on va aborder ce deuxième sujet avec vous Pierre. Tiens, sinon aux États-Unis ça se passe bien hein? Parce que demain ça fera déjà 100 jours que Donald Trump a posé ses grosses fesses sur le canapé de la Maison Blanche. L'heure du premier bilan, le bilan du démarrage, qui est... Oh, finalement, c'est plus calme que prévu. Hein. Oui, écoutez, c'est détendu avec la Syrie et la Corée du Nord, écoutez. Écoutez.
Avant tout, tu vas pencher la tête bien en arrière et tu vas te l'enfoncer dans ton putain de fion.
Bref, je sais pas quelle espèce de guéguerre transpacifique vous essayez de jouer, mais attention, Coco, l'Asie, c'est mon territoire. Alors quoi que vous commerciez, faites bien gaffe, parce que si vous m'obligez à venir, ce que je vais vous coller dans le cul vous laissera un goût de merde dans la bouche. Et alors là, faudra chialer devant les Nations Unies et faire voter une putain de résolution rien que pour m'empêcher de vous anéantir tous. Je vais faire couler le jus de citron, bande d'enflés. Je vais vous massacrer. Je vais vous baiser jusqu'à la moelle.
C'est marrant parce que tout était déjà dans Tonnerre sous les tropiques. De tout, tout ce qu'il y avait de la politique étrangère de Donald Trump, tout était déjà dans le film.
Vous l'aviez raté à Cannes, celui-là, Tonnerre sous les tropiques. Hein. Non, passé à côté. Hein.
Pierre Lescure, vous avez vécu aux États-Unis, si ouais. Je ne me trompe. Mm-hmm. Donald Trump avait dit qu'il rendrait sa grandeur à l'Amérique en 100 jours. Donc on est en droit de faire un petit bilan là, non? Alors, votre bilan des 100 jours de Trump, comme ça, c'est un peu impressionniste, hein, donc c'est pas évident comme commentaire, mais on va pas reculer devant ce
Non, mais c'est un défi. Truc qu'on n'a jamais vu. Donc on vit en direct un truc qui pourrait pas être au cinéma, parce que la réalité est 10 fois plus exorbitante, caricaturale. C'est d'une dimension de comédie qu'on n'avait jamais vue, sauf que c'est la comédie à la tête du pouvoir. La seule bonne nouvelle que j'ai vue, enfin il y en a deux. La première, c'est qu'il a déçu Poutine très vite, donc il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de mainmise du Russe sur l'Américain, même s'il y a eu des connivences avant. Et puis la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu au moins 2 projets de loi bloqués. Et puis là, maintenant, il va y avoir une sacrée bataille autour des taxes qu'il veut complètement révolutionner en favorisant quand même énormément les plus riches. Ça va peut-être pas passer au Congrès. Je sais pas si on ira aux 200 jours.
Mmh. Ah, oulala. Ah oui, vous pensez?
Ah oui, parce que s'il y avait 3 lois bloquées, ça commencerait à être un problème parce qu'on approcherait des élections de mi-mandat.
Et puis là, il passe quand même pas mal de temps à essayer de détricoter ce qui a été fait plutôt qu'à construire des choses. Est-ce qu'il essaie de construire comme le mur? Ça n'a pas démarré non plus. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire entre la campagne aux États-Unis et ce qui nous arrive en France? Quand on entend, par exemple, oh, bah, elle passera jamais. C'est quand même ce qu'on a entendu avec Trump. Est-ce que c'est un parallèle qu'on peut faire à ce niveau-là?
C'est un parallèle presque technique. Il y a d'abord le fond, qui est l'essentiel, que vous venez de dire. Et puis, il y a le fait qu'aux États-Unis, ce qui a surpris, c'est qu'au-delà du fait qu'il a eu un peu moins de voix qu'Hillary Clinton, néanmoins, il y a eu 50% d'abstention. Donc, en France, d'ici le deuxième tour, quel que soit votre choix, il faut bien savoir que plus on augmente le nombre des abstentions potentielles, plus on se rapproche de 50%, plus il y a de chances que l'arithmétique de l'arrivée soit différente de ce que vous imaginiez.
Et dites-nous, Donald Trump, alors on disait peut-être qu'il ne va pas arriver aux 200 jours parce qu'il y a le Congrès, etc. Il n'a pas toute la liberté qu'on imaginait. Il a quand même un sacré pète au casque aussi, non? Parce qu'il n'y a pas un moment où il va y avoir un examen psychiatrique et on va se dire...
Il y a un truc que me disait un copain américain qui est vrai et que je n'avais pas intégré tout de suite. C'est que cet homme, très jeune, il s'est vu léguer les rênes de l'entreprise familiale qui était déjà florissante par son père. Et donc ça fait 54 ans, car il n'est pas tout jeune, il est plus vieux que moi, c'est vous dire. Ça fait 54 ans que ce mec ne s'occupe que de ses affaires. Donc, c'est sa nature. Ben, il continue.
Oui. Sauf qu'il l'a dit lui-même, ses affaires sont devenues très 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 grosses. Elles s'appellent les États-Unis, donc c'est une paire de manches, effectivement. Isabelle Sorrente,
Charline,
vous êtes passée par ce studio aujourd'hui pour notre plus grand plaisir.
Oh, écoutez les amis, alors moi aujourd'hui je me demandais de quoi j'allais vous parler, quel genre d'histoire j'allais vous raconter entre les deux tours, hein, parce que l'entre-deux au fond, c'est un moment particulier. C'est un moment de suspension qui rappelle un peu la zone de transit d'un aéroport. l'aéroport. Vous savez, ce moment où vous êtes déjà parti, mais loin d'être arrivé, et vous vous demandez quoi faire jusqu'à ce que l'avion décolle, tout en étant un peu nerveux quand même, et en jetant de temps en temps un œil au tableau d'affichage, histoire d'être sûr que l'embarquement n'a pas déjà commencé. Et oui, l'entre-deux tours, ça ressemble à une longue zone de transit avec des écrans partout. Alors, que faire pour tuer le temps en zone de transit? Vous allez me dire du shopping, mais quand on est fauché ou trop nerveux parce qu'on se dit par exemple que l'avion sera peut-être annulé ou qu'il nous amènera là où on ne veut pas aller. Bref, pour tuer l'angoisse en zone de transit, c'est connu, on mange des muffins. Des muffins qu'on ne trouve pas ailleurs qu'en zone internationale, qu'on trempe dans du café qui a le goût de caramel, qu'on ne trouve pas ailleurs non plus. Bref, on mange du sucre, beaucoup de sucre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous parler de sucre, puisque nous ne pouvons pas parler de politique en zone de transit. Pour respecter l'égalité entre tous les sucres, je ne vais pas citer la marque du sucre en question, mais les publicitaires, qu'on appelle aujourd'hui les communicants, sont vraiment très forts. Et voilà ce que j'ai lu ce matin au dos de mon paquet de sucre dont je tairai le nom pour respecter l'égalité entre tous les sucres. On devrait, chaque jour, mettre un paquet de bonne humeur et une bonne dose de folie dans nos vies parce que ça fait vraiment du bien de lâcher prise. Alors, à bas la routine et vive le super positif. Je répète pour que vous soyez pénétrés, Charline, oui, du sens profond de ces paroles, ouais. Je crois qu'il faut répéter. On devrait, chaque jour, mettre un paquet de bonne humeur et une bonne dose de folie dans nos vies parce que ça fait vraiment du bien de lâcher prise. Alors, à bas la routine et vive le super positif. Et là, il faut commenter, parce qu'il y a des jours où un paquet de sucre en dit plus long qu'un traité de métaphysique. Vous aurez remarqué que la phrase commence par « on devrait ». Le bonheur et le positivisme sont un devoir de nos jours, je vous le rappelle, depuis que des gens ont remarqué que les gens heureux étaient plus productifs. On devrait, chaque jour, mettre un paquet de bonne humeur et une bonne dose de folie dans nos vies, parce que ça fait vraiment du bien de lâcher prise. Vous notez que le mot « sucre » n'est jamais prononcé. Le communicant n'est pas stupide. Il sait bien que le diabète fait peur, que le sucre est considéré comme un ennemi, presque aussi dangereux que le gluten. Alors, comment lui donner une nouvelle image? Le blanchir, si j'ose dire, alors que dans ce cas précis, il s'agit de sucre roux. Parler du paquet de bonne humeur et de dose de folie. Bref, le geste de sucrer est évoqué, le sucre est là sans être là. Mais surtout, ça fait vraiment du bien de lâcher prise, voilà l'inévitable conseil bien-être, le dogme d'aujourd'hui. Sauf qu'une phrase qui commence par « on devrait » et se termine par « lâcher prise » a quand même quelque chose de contradictoire. Lâche prise, je te dis, lâche-toi, sois un peu spontané. C'est ce qu'on appelle du double bind ou de la torture mentale, un peu comme la méditation obligatoire imposée chaque matin au cadre de Google USA. Paix à leur âme. Alors, à bas la routine et vive le super positif. Acheter ce discours nous rendrait donc subversif, capable de renverser l'ordre établi, qu'il me soit permis d'en douter. Car ce qui fait l'intérêt de la vie n'est pas la dose de sucre qui nous fait oublier son amertume, ça n'est pas le super positif, mais l'effort tragicomique, toujours recommencé pour parler à des inconnus qui sont nos compagnons de route. Même en zone de transit, nous sommes tous dans le même bateau.
Merci Isabelle Sorrente.
Ah ouais, ça.
Ah ouais. Ouais.
Moi je déteste le sucre roux.
Bah moi aussi maintenant.
Pierre Lescure, qu'est-ce que vous faites vous quand vous êtes en zone de transit dans un aéroport?
Je regarde mon portable, je crois bien.
Oui.
C'est triste, non?
Bah oui, si vous regardiez les paquets de sucre, peut-être vous auriez envie de faire la révolution.
Je serais plus philosophe.
Ça engage à la révolution les paquets de sucre aujourd'hui.
C'est sûr.
Pierre Lescure, qui est aussi tous les soirs dans C'est à vous.
Ouais.
Il est sympa Patrick Cohen.
Ben oui, il est d'ailleurs.
Sur Europe 1.
Ah non, pardon.
On va aborder ce troisième sujet avec vous, Pierre Lescure. La journaliste de CNews, Audrey Pulvar, a été suspendue par la chaîne d'info, anciennement appelée iTélé, pour avoir signé une pétition féministe et anti-Front National, un fait récupéré par le FN. Donc la décision est tombée nette. D'ailleurs, voici comment ça s'est passé à CNews, cette décision chez Bolloré.
Vous ne trouvez pas qu'elle aurait tendance à nous faire chier? Toutes? Vous êtes du quartier?
Non, de Montrouge.
Ils sont comment à Montrouge? Va arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là,
à force de jouer avec nos nerfs, fragiles les nerfs.
Et on en a beaucoup. Alors s'ils pètent tous à la fois, ça risque d'abîmer leur petite gueule.
Elles auront que ce qu'elles ont cherché.
Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort dans
Calmos.
Calmos. Calmos. Eh oui, évidemment. Alors, dans cette période très tendue, évidemment, le moindre fait médiatique est scruté. Et là, finalement, on se posait la question ce matin, sans même signer de pétition, Audrey Pulvar, elle a jamais caché ses engagements. Alors, cette suspension, vous qui avez dirigé une chaîne, ça se justifie sans arrière-pensée. C'est normal quand on signe une pétition anti-FN, qu'on est journaliste et qu'on reçoit des politiques sur un plateau.
Il faut dire que la pétition se terminait par « je vote Macron », ce qui était en soi un engagement.
Ouais.
Mais ce que vient de dire Alex, c'est essentiel. Si j'étais patron de l'antenne, je dirais vous animez une session d'information, ou encore pendant 8 jours, vous animez des débats entre des gens qui sont pour, des gens qui sont pour l'autre. Vous ne pouvez pas prendre cette position. Ça, c'est la position de principe qui, je crois, serait celle de tout dirigeant de rédaction ou de direction. Et puis en même temps, j'ai envie de dire que j'ai un signe de sympathie à son égard, parce qu'elle m'avait franchement déçu pendant la grève. Et
pendant la grève à la télévision, voilà. Dans laquelle on l'a pas vue.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. J'ai en même temps, je lui envoie un baiser sympathique.
Mais est-ce que c'est pas mieux de savoir ce que les journalistes votent? Parce que quand on voit l'affaire Laurence Haïm, par exemple, qui, en tant que journaliste, après, vient vraiment s'intégrer dans une campagne, donc peut-être qu'elle pensait déjà... évidemment, elle gérait les États-Unis, mais peut-être que des journalistes feraient mieux de nous dire pour qui ils roulent, comme ça, au moins, on saurait dans la façon dont les questions sont posées.
Est-ce que c'est pas moins hypocrite, quoi?
Non, franchement, je crois pas. C'est ingérable.
Zemmour, par exemple, on sait qu'il va voter Le Pen. Il le dit pas ouvertement, mais on le sait.
Oui, mais lui, on peut pas dire qu'il soit hypocrite, franchement. On peut dire plein de trucs.
Non, mais
l'hypocrisie, mais pas qu'il soit hypocrite.
C'est de ne pas le dire, justement. Là,
non, mais là, ça devient ingérable. Quand vous interviewez au moins une personne par jour, voire plus, on peut pas sans arrêt se dire, ah, je décode. Ah, bah oui, lui, effectivement, il serait plutôt pour le centre droit ou le centre gauche.
Ça brouille la grille de lecture, l'interview.
Zemmour est toutes les semaines sur Paris Première, ouais. Interview des politiques.
Il interview des gens,
Oui, mais lui est pas franchement hypocrite. C'est une interview très engagée. Normalement, le rôle de l'intervieweur dans les débats de chaîne info, c'est quand même d'avoir une certaine neutralité. Moi, je suis assez sensible à ce que dit Jean-Michel Apathy quand il dit « Moi, j'ai toujours proclamé qu'étant journaliste, je votais blanc. » Et à partir de là, vous ne m'attraperez pas.
Oh, bah, il fait le jeu du Front National.
C'est ce qu'on lui a dit l'autre soir.
Ah, absolument. Bon, ouais. Pierre, est-ce que vous êtes bien content d'être sorti de tout ce merdier? Non, c'est quand même plus sympa.
Il y a la réponse dans les questions.
C'est quand même plus sympa de présider le Festival de Cannes.
Oui, mais franchement, je suis... quand on commence à s'intéresser à l'actualité, qu'on soit journaliste ou qu'on soit comme vous, on n'en sort plus jamais, et heureusement.
Vous avez été animateur, vous avez présidé Cannes.
Ben, j'ai commencé journaliste. Quand même.
Ouais, vous avez été journaliste, vous avez été directeur de chaîne. Qu'est-ce qui vous fait encore bander?
Fernande?
Non, vous avez même été proche du PSG, vous avez le sport, tout ça, avec Canal. Est-ce qu'il y a encore un domaine où vous vous dites, là j'irai?
Je pourrais retourner. J'ai regretté de ne pas continuer ce que François Pinault m'avait proposé de faire, ce que j'ai fait pendant 5 ans au Théâtre Marigny. Ouais. Parce que ça, c'est un truc qui m'est arrivé assez tard. J'avais toujours été dingue de théâtre, même dans mes années Canal. Et j'ai pris un pied gigantesque pendant 5 ans. Voilà. Ça, j'aurais pu continuer. Donc, je pourrais demain diriger un cirque, éventuellement.
L'appel est lancé.
Oui, effectivement.
Monsieur Bouglione, je m'entends.
Je viendrai faire tourner des assiettes.
Alors, il vient d'entrer dans ce studio.
Il est
derrière vous. Il est très attendu le vendredi. Hein, ça est...
Attention, je pense que pour le cirque, on peut le mettre en premier numéro. Frédéric Fromet est derrière vous avec sa guitare. De quoi allez-vous nous chanter?
Mais bonsoir. Une étude révèle que seulement 6 Français sur 10 refuseraient de se mettre en couple avec quelqu'un d'extrême droite. Eh ben, allons faire un tour chez les 4 autres qui rêveraient de rouler une pelle à Marine Le Pen. Mon fureur, mon amour. Mon amour, mon fureur. Mon fureur, mon amour. Mon amour, mon fureur. Ça dégouline d'amour chez les négationnistes des fours. Pas besoin de chambre à gaz pour des mots doux à chaque phrase. Elle est belle ta croix gammée, amour. Mon fureur, j'adore ta petite moustache. Et ça se fait des mamours. Voilà un arabe, passe-moi la cravache. Et si on faisait le salut nazi? Non, pour l'instant, on se camoufle. Et si on faisait des selfies sur un parking avec des gens qui souffrent? Je hais les couples qu'on entend gueuler, on est chez nous. si vous êtes chez vous, alors moi je suis où? Mon Führer, mon amour? Mon amour, mon Führer? Mon Führer, mon amour? Mon amour, mon Führer? C'est un épais vomi derrière un sourire mécanique, ce n'est que xénophobie dans le discours patriotique. Coucou, qu'est-ce que tu fais, mon Führer? Je compte les pudeurs de gazelle, mon cœur. Tous ceux qui ne font pas le distinguo avec le parti des fachos. On rigolera bien avec le ministre Robert Ménard, le ministre, la ministre Marion Maréchal, le ministre Gilbert Collard, le ministre David Rachline, le ministre Florian Philippot et la première dame, Louis Alliot. Tu sais que tu me fais penser à Barbie? Non, pas la poupée. Bon, je t'embrasse fort, hein, mon Adolphe. Je t'embrasse fort, 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 fort. Non, c'est toi qui déporte. Non, c'est toi. Non, c'est toi qui déporte. Bon, ein, zwei, drei. Je vais bientôt déporter. Je hais les couples qui nous rappellent des heures sombres. Le 7 mai, aucun doute, je vote contre.
Ouais, Frédéric Fromet. Merci. Vous pouvez nous refaire un petit refrain?
Ah oui,
un petit refrain. Ah ouais, ça fait tellement de bien.
Je hais les couples qui nous rappellent des heures sombres. Le 7 mai, aucun doute, je vote contre.
Ouais, c'est celui-là qu'on voulait. Merci Frédéric Fromet.
Parodie de Mon cœur, mon amour d'Anaïs.
Eh ouais, évidemment. Comment ça se fait que ça fasse autant de bien d'entendre ça? C'est bizarre. On est... Qu'est-ce qu'il y a, hein?
La semaine a été compliquée. Hein,
manque de sucre.
C'est vrai. Tiens, autour de cette table, qui s'est déjà rendu au Festival de Cannes?
Je suis allé l'an dernier avec Laurent Ruquier dans la très belle émission qui a été faite dans la villa sur les hauteurs de Cannes.
Ouais. Ouais, qu'est-ce que vous avez retenu de Cannes?
Que Pierre Lescure était l'invité.
Passionnant. Alors, avec quelqu'un d'autre?
Moi, vous m'avez envoyé faire un reportage il y a 2 ans.
Et alors,
j'en ai retenu les gens qui attendent des heures et des heures pour avoir des autographes. Avec des petits escabeaux pour garder leur place. C'était vraiment très bien.
Mais ça n'a rien perdu de son mythe. C'est ça
qui
est fort.
Ah non, mais c'est ça qui est magnifique. Et à travers le monde, ça, c'est un bienfait des réseaux sociaux. C'est qu'on voit le retour des réactions internationales sur Twitter, par exemple, lorsque Thierry annonçait la sélection.
Et bien,
ça, c'est vraiment réjouissant.
C'est à partir du 17 mai jusqu'au 28 mai, le 70e Festival de Cannes. Pierre Lescure, merci beaucoup.
C'est complet, hein.
Je rappelle aussi qu'on vous retrouve tous les soirs dans C'est à vous. Merci à toute l'équipe, hein, Nathalie Romero, Sarah Masson, Irène Menahem, merci à Anne-Sophie Ladonne à la réalisation, merci à toute l'équipe, les équipes techniques, et puis merci à vous tous autour de la table.
C'est vous, merci. Non, mais alors.
Mais toi-même. Oh, et voici le mot de la fin à la jeunesse qui n'a pas encore le droit de vote, puis qui sait déjà qu'elle n'ira pas voter, même face au FN, dites donc.
C'est quand même une lourde décision, le retrait des troupes.